Jean chapitre 7 à partir du verset 28. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » Verset 29, Jean chapitre 7, oui, si tu as besoin d'aller chercher encore. Verset 29, donc il dit, « Celui qui m'a envoyé est vrai, vous ne le connaissez pas, moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez me dire où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il ? Que nous ne le trouverons pas ? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai ?» Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu, et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. J'aimerais que nous revenions maintenant sur les versets 37 à 39. Permettez que je les relise. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Je m'arrête là. Des fleuves d'eau vive, c'est le sujet du message, mais c'est surtout le sujet de ce texte, des fleuves d'eau vive. Il n'y a rien de plus beau, je pense, que des fleuves d'eau vive. Parfois on voit un magnifique tableau, avec un paysage de rêve, des arbres, des forêts, des pics de montagne avec des neiges éternelles. Mais ce qui donne vraiment un relief à son tableau, c'est de voir un fleuve, un magnifique fleuve qui passe, qui traverse tout le tableau. Et le tableau s'arrête et le fleuve remplit tout le bas du tableau. Et puis on voit cette eau étincelante, pure, et on voit les rochers au fond de l'eau. Et c'est une véritable merveille. On dit, qu'est-ce que j'aimerais faire du camping pendant une semaine à côté d'un tel fleuve. Un fleuve d'eau vive. Non seulement c'est beau, mais c'est essentiel pour nourrir toute la nature, pour irriguer. Là où il y a de grands fleuves, de beaux fleuves, comme en France, on a un beau pays. Là, il y a des fleuves, il y a des montagnes, il y a des plaines verdoyantes, il y a des cultures, il y a des forêts. L'eau amène partout avec elle la vie. Il y a des hommes, et ils ne peuvent pas faire de beaux fleuves, mais ils peuvent faire des canaux d'irrigation qui puisent dans ces fleuves et qui amènent cette eau dans les champs. Mais ils ne peuvent pas créer l'eau. Il faut qu'ils détournent l'eau un petit peu pour arroser ces cultures. Et donc, c'est les fleuves d'eau vive, c'est la première cause de fruits, de légumes, d'arbres, de tout ce qui orne la nature. Et Jésus emploie cette expression des fleuves d'eau vive. Si des fleuves d'eau vive dans un tableau sont magnifiques, si des fleuves d'eau vive dans une nature, c'est la base de tout ce qui est beau et de tout ce qui est vivant. Des fleuves d'eau vive que Jésus nous promet devraient nous rendre attrayants, attrayants spirituellement, devraient faire de nous des aimants vers lesquels les gens sont attirés. Parce qu'ils voient une abondance de vie, la vie de Dieu en nous. Ils ne savent pas d'où ça vient. Comme beaucoup de fleuves, on ne sait pas très bien où ils prennent leur source, mais ça ne nous empêche pas d'en profiter. Et les gens, finalement, ils disent, j'aimerais avoir ce que vous avez. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas. C'est quelque chose qui te rend heureux dans le désespoir. C'est quelque chose qui te donne un épanouissement alors que d'autres sont dans la frustration et dans les complexes. Ce quelque chose que vous avez vous donne une paix alors que d'autres sont tourmentés. Qu'est-ce que c'est que vous avez? C'est comme un fleuve d'eau vive. Eh bien, regardons un petit peu cette offre de Jésus-Christ. D'abord, regardons le moment de son offre. Le moment de son offre. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Quelle est cette fête? Dans la Bible, il y avait sept fêtes qui jalonnaient l'année religieuse juive. C'est Dieu qui leur avait donné ces sept fêtes. Et si vous voulez les étudier plus en profondeur, lisez Lévitique 23. C'est dans ce chapitre que vous trouverez la description des sept fêtes de l'Éternel. On ne le fera pas ce matin, mais vous pouvez faire une note à côté, Lévitique 23. Votre première fête, c'est la fête de Pâques. Quand on tuait l'agneau et on le rôtissait et on la première fois on avait mis du sang sur les portes pour éviter que les premiers-nés meurent à la dixième plaie d'Égypte. Cette Pâque, la fête de la Pâque, symbolise Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, l'agneau de Dieu. De suite après cette fête de Pâque, qui est le 14e jour du premier mois, vous avez une fête qui dure 7 jours, c'est la fête des pains sans levain. On mangeait pendant 7 jours du pain sans levure. Il ne fallait même pas avoir de la levure dans sa maison. Et ça symbolise la vie de Jésus-Christ qui était sans péché. Parce que la levure, dans la Bible, est un symbole de péché. Y arrivons avec la levure, hein. Mais c'est un symbole de péché, puisque ça augmente, ça gonfle, c'est un principe qui fait qu'il y a une fermentation, et tout cela. Et puis, après cette fête-là, il y avait une troisième fête, c'est la fête des prémices. Et les prémices, on portait les premiers fruits de la terre, on les présentait à l'Éternel, et la fête des prémices, ça rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Lui, il est déjà ressuscité. Et nous, ça veut dire que nous, un jour, si nous avons cru en lui, nous ressusciterons. Tout comme si vous avez les prémices, ça veut dire qu'il y a une moisson, une récolte derrière. La résurrection de Jésus-Christ. Vous comptez 50 jours et vous avez la fête de Pentecôte. On l'appelait la fête de la moisson. Et cette fête de Pentecôte, il y avait une particularité, la seule fête avec des pains levés, des pains avec du levain, deux, qui était symbole de l'église de Jésus-Christ. Cette église de Jésus-Christ qui sera composée de deux groupes de personnes, des juifs et des non-juifs, qui sont ensemble dans le corps de Christ. Et en train de lever, donc symbole du péché, cette église sera formée de gens qui sont pécheurs. Mais enfin, c'est une Pâque qui est levée, et puis après vous le faites cuire, et après la levure meurt et on s'arrête comme ça. La levure ne fonctionne plus. Hein? Et c'est un symbole de la personne qui accepte Christ, qui est un pécheur, c'est vrai, mais un jour, Dieu arrête l'effet du péché dans sa vie et l'amène à la gloire où il devient parfait. C'est très beau comme symbolisme. La fête de Pentecôte, c'est le début de l'Église. Ensuite, il y a la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est l'appel de Dieu pour rassembler ses élus. Parce que les trompettes pour Israël, des trompettes en argent, étaient sonnées pour ramener tout le monde au même endroit pour faire une réunion. C'était la trompette du rassemblement. Et ces trompettes étaient faites en argent. Et l'argent était un symbole de la rédemption. Parce que chaque Israélite devait payer de l'argent au Seigneur comme une petite taxe sur sa personne. Ça voulait dire, j'appartiens à Dieu et je donne mon rachat en argent au Seigneur. Seulement nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Donc cette trompette. Et donc le Seigneur va réunir son Église pour l'enlèvement, mais le Seigneur va aussi réunir des quatre fins du monde son peuple d'Israël. Et puis quand il reviendra pour régner, il sonnera de la trompette aussi. Donc c'est le rassemblement. Ensuite il y a Yom Kippour. C'est la fête des expiations. Une fois par an, Dieu leur disait, vous n'allez pas faire des sacrifices pour tous les péchés que vous avez commis tout au long de l'année. Vous allez vous rendre compte de certains péchés, mais il y a des péchés que vous aurez faits, dont vous n'êtes même pas conscient. C'est pourtant des péchés. Une fois par an, tout le peuple fait un sacrifice pour son péché. Et je pardonnerai vos péchés, c'était une fête pour Israël. Et c'est un symbole du fait que, à la fin de ce terrible temps de la tribulation, Israël va être à la dernière extrémité et va finalement, de son incrédulité et de son cœur endurci, va se tourner vers Jésus-Christ et Christ va leur donner l'esprit de grâce et de supplication et ce peuple va se convertir tout à coup à Jésus-Christ. Ça, c'est Zacharie chapitre 12, verset 10. Et donc, ils vont se tourner vers Jésus-Christ et se rendre compte enfin que c'est lui leur sauveur. Et dans ce sacrifice, il y avait deux animaux. Un animal, on confessait ses péchés sur lui, enfin sur les deux, mais un, on tuait, et l'autre, on chassait dans le désert, et puis ne pouvait plus jamais revenir dans le camp. Et ça montrait quand Christ a payé pour nos péchés, il a payé à cause de la sainteté de Dieu, son sang a coulé, mais aussi il a porté nos péchés très loin de nous, qu'on ne puisse jamais plus les retrouver. Et puis la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. En fait, on faisait des petites huttes avec des branchages et on faisait du camping pendant 8 jours. Et alors c'était la fête tous les jours, c'était la joie et la paix dans l'unité, dans ces petites huttes. Et c'était en fait la préfiguration du millénium. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour régner, ce sera la joie, la paix, la fête. On sera ensemble avec le Seigneur, ça sera des festins, enfin, ça va être un temps merveilleux. Et c'est le millénium. Donc, ça, c'était le dernier jour de la grande fête, la fête qui a duré 8 jours. Et chaque matin, de cette fête des tabernacles, surtout à Jérusalem, du monde qui venait pour faire cette fête, pour être là, à la capitale, près du temple, c'était quelque chose. Et tous les matins et tous les soirs, dans cette fête, un sacrificateur cherchait de l'eau à la piscine de Siloé. Et il prenait cette eau. Alors, c'est difficile d'imaginer, bon, prendre un seau d'eau et le verser quelque part, ça ne rime à rien. Mais c'était dans la fête. Parce que dans Ésaïe, il y a un verset qui dit, « Vous irez puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. » Et ils ont pris ce verset, puis sont tous les matins, tous les soirs, un sacrificateur allait, mais entouré de plein de gens, il allait chercher de l'eau dans le piscine de Siloé, et il revenait, les gens chantaient, les gens sautaient en l'air, les gens étaient heureux, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et puis il versait cette eau devant l'autel. Et on disait parmi les Juifs à cette époque-là, vous n'avez jamais connu ce qu'est la joie et la réjouissance. si vous n'avez jamais été à la fête des tabernacles à Jérusalem, et si vous n'avez pas fait cortège avec le sacrificateur qui verse l'eau devant l'autel, si vous n'avez jamais vécu ça, vous ne savez pas ce que c'est que la joie. C'est le moment le plus joyeux, le moment le plus festif de toute l'année juive. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et puis on versait cette eau devant l'autel. Et ça se faisait pendant 7 jours. Le 7e jour, c'était le dernier jour où ils versaient de l'eau comme ça. Donc, alors, il faut que vous compreniez ça, il faut comprendre ce que dit Jésus. Toute la semaine, matin et soir, pendant 7 jours, vous voyez des gens avec la joie en versant un seau d'eau devant l'autel de l'Éternel. Et le 8e jour, donc le dernier jour, mais le jour après qu'on avait fait ça, Jésus se lève, alors c'est une excitation incroyable dans ce parvis du temple, il y a des gens par milliers partout, il y a des gens qui sont venus de tous les coins du monde pour être là, pour vivre cette expérience, et là, en plein milieu de cette foule, vous avez Jésus qui se lève. Il se lève et il crie. Normalement, le 8e jour, on ne faisait pas des cris de joie. Le huitième jour, c'est un jour de réflexion. Autant les 7 premiers jours, c'était... Le 8e jour, on se calmait, on réfléchissait. Et c'est ce jour-là, quand c'était relativement silencieux, sans doute, dans ce grand parvis du temple, des centaines de milliers de personnes en prière, dans la méditation. Jésus se lève... Et sa voix résonne sur toutes les murailles de ce parvis. Il devait avoir une voix extraordinaire, notre Seigneur, qui disait « Si quelqu'un vient à moi !» Et puis il crie à haute voix. Les rabbins ne faisaient pas ça. Chez les juifs, ça ne se faisait pas. On n'enseignait pas debout. On s'asseyait pour enseigner. Et on parlait à un petit groupe. Mais Jésus fait une prédication, une petite prédication, devant ces milliers de gens, et il fait une offre. Lui-même avait enseigné toute la semaine à Jérusalem. Les foules étaient grandes à Jérusalem. Et en plus, dans la foule, là, il y avait les huissiers. Mais pourquoi ils étaient là? Parce que les autorités religieuses commençaient à dire, Jésus commence à nous gêner sérieusement. Ce jeune rabbin de Nazareth, des gens le suivent, il va nous déstabiliser, il faudra l'arrêter. Mais discrètement les gars, vous le cravatez en douceur, hein, et vous l'amenez ici. Pas de révolution, mais vous nous le ramenez là, et puis on va lui faire son procès. Donc les huissiers étaient là, dans la foule, et Jésus enseigne, il dit cette phrase, et les huissiers reviennent, et n'est-ce pas, les gens disent, oh, est-ce que vous allez... Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Eux-mêmes étaient saisis, ils ne pouvaient pas aller le chercher, ils étaient saisis par sa personne et son enseignement. C'était le moment. Alors ce 8e jour, toute la foule quand même attendait de ce Jésus une dernière parole. Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Et il y avait une tension là. Qu'est-ce qu'il va dire le jeune rabbin de Nazareth, ce Jésus, cet homme qui fait des miracles, cet homme qui attire des foules, cet homme qui attire la colère des pharisiens contre lui? Mais qu'est-ce qu'il va... Cet homme qui parle avec autorité, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Et donc tout était prêt pour cette annonce de Jésus. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit ici? On voit la merveille de son offre, parce que c'est quand même une offre merveilleuse. D'abord il dit, enfin on voit que c'est urgent. Il n'est pas assis dans son fauteuil, si quelqu'un veut venir à moi, je donne de l'eau. Non, il se lève. Il étend ses bras sans doute. Quand vous dites, venez à moi, vous ne faites pas, venez à moi. Venez à moi, c'est un langage d'accueil. Mais les bras croisés sur la poitrine, c'est comme un langage de corps, de refus. Hein? Venez à moi, je vous accueillerai. Ça ne le fait pas. Hein? Mais venez à moi, je vous accueillerai. C'est tout à fait autre chose. Et Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, Donc, il est debout. Il s'écrie. Ce n'est pas comme ça qu'on enseignait dans le judaïsme. Mais Jésus n'enseigne pas. Il fait une offre. Une offre urgente. Non seulement ça, mais c'est une offre puissante. Ça saisit les gens. Et c'est une offre individuelle. Il dit, si quelqu'un a soif, une offre individuelle, il ne dit pas, si vous avez tous soif, venez en foule. Il dit en quelque sorte, vous êtes des milliers, mais il y a des individus, vous êtes chacun de vous des individus. Et si quelqu'un, si plusieurs, mais quelqu'un, ça veut dire une personne en particulier. Si quelqu'un, si vous êtes tout seul dans cette foule, à venir à moi, mais si vous venez à moi, je vous donnerai ce que je vous ai promis. Si vous êtes 10 000, je vous traite comme 10 000 individus, et je vous donnerai à chacun ce que je vous ai promis. Si quelqu'un, et il dit, si quelqu'un vient à moi, il faudra que vous vous détachiez de la foule et que vous veniez à moi personnellement. Il faut que vous veniez. Je suis venu vers vous, mais il faut que vous fassiez au moins un pas pour venir à moi. Si quelqu'un croit en moi, celui qui croit en moi, croire, venir, s'approcher, c'est un appel individuel. Mais c'est aussi un appel universel. Parce qu'aujourd'hui encore, il dit, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un croit en moi, à Saint-Gaudens, si quelqu'un croit en lui, à Paris, si quelqu'un croit en lui, à Tokyo, si quelqu'un croit en lui, il aura la lumière, les fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. C'est aussi une offre satisfaisante. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit déjà en Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'il avait dit en Jean chapitre 6? Il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là, il dit, alors, regardez bien, il dit, je vous donnerai du repos si vous êtes fatigué, je vous nourrirai si vous avez faim, je vous désaltérerai si vous avez soif. Mais cette fois-ci, son offre, ce n'est pas, je vous donnerai quelque chose à consommer, je vous donnerai du repos. Là, cette offre, c'est, si vous croyez en moi, vous allez en abreuver d'autres. C'est-à-dire, vous allez devenir une source d'eau vive. L'eau vive va couler de votre sein. C'est pas couler dans votre sein, mais c'est couler de votre sein. Ça veut dire que si vous croyez en moi, non seulement je vous donnerai ce qu'il faut pour vous satisfaire, mais vous en aurez tellement que ça débordera pour en toucher d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une belle offre? C'est une magnifique offre. C'est une offre satisfaisante, c'est une offre individuelle, c'est une offre universelle, c'est une offre urgente, c'est une offre puissante et c'est une offre purificatrice aussi. Parce qu'il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, vous dites, où est-ce que j'ai trouvé ça dans la Bible? Ah oui, je me souviens, dans le prophète Ézéchiel. Dans le prophète Ézéchiel, vers le 40e chapitre, Ézéchiel a une vision. Et cette vision concerne le temple de l'Éternel pendant le millénium. Quand Jésus régnera sur la terre, Jésus régnera près de Jérusalem, dans la terre d'Israël. Et la terre d'Israël sera divisée en bandes horizontales, une bande par tribu. Et au milieu, il y aura une bande pour le roi, il y aura David. Une bande pour le sacrificateur, il y a des quartiers pour le sacrificateur, c'est tout expliqué, et la taille de ces quartiers, là aussi de ces banlieues, et il y aura au milieu un temple dont nous avons toutes les dimensions en Ézéchiel. C'est un plan de l'architecte. Un architecte pourrait faire le plan détaillé à partir des détails qui sont donnés en Ézéchiel. Mais il dit, oh, le temple sera construit et sous le seuil du temple, il sortira un fleuve d'eau vive. Un énorme fleuve d'eau vive. Et ce fleuve d'eau vive coulera vers la mer morte. Remplira la mer morte et assainira la mer morte. La mer morte est morte, il n'y a aucune vie dans la mer morte. Ça va assainir et rendre pure la mer morte, et après elle va partir irriguant tout le chemin et finir dans la Méditerranée, un fleuve d'eau vive. Et des deux côtés de ce fleuve, il y aura des arbres qui porteront des fruits tous les mois. Ça c'est rapide, hein. Tous les mois, les fruits sur ces arbres. Et les feuilles vont servir à la guérison des nations, dit la Bible. Alors, le signe distinctif de la présence du Christ sur la terre sera ce temple, et puis cet énorme fleuve qui vient tout assainir sur son passage, nourrissant les gens par les arbres situés sur les rives. Et dans la vision d'Ézéchiel, le Seigneur dit, entre dans ce fleuve. Alors il entre, il fait à peu près 500 mètres, et il a de l'eau jusqu'au genou. Puis il va un peu plus loin, ou même jusqu'aux chevilles, puis après jusqu'aux genoux, il fait 500 mètres de plus, il a l'eau jusqu'au rein, il fait 500 mètres de plus, et il a de l'eau jusqu'à la poitrine, et après, il faut être obligé de nager. Donc ça vous donne une idée de la largeur du fleuve. Comme vous voyez le petit fleuve du Jourdain là-bas en Israël, comme vous voyez combien cet endroit est sec, vous dites, mais c'est miraculeux si Dieu va faire un grand fleuve de cette taille, fleuve d'eau vive, fleuve d'eau pure, en plein désert, c'est vraiment un miracle. Mais ce fleuve, pendant le millénium, est un symbole où c'est la réalisation de ce que Dieu veut faire en nous. Nous vivons, nous, dans un désert spirituel. Les gens autour de nous ne sont pas épanouis. J'espère que vous vous êtes rendu compte. Les gens se plaignent, les gens sont désespérés, les gens sont désabusés, les gens sont tristes, les gens sont, ils sont râleurs, avouons quand même, avouons-le tout de même. On est inquiet, très inquiet. Beaucoup de gens sont en colère, ils ne décolèrent pas. Du lundi matin au dimanche soir, ils sont, et quand ils prennent le volant, on voit qu'ils sont en colère. Hein? Et la moindre chose, ils sont prêts à cogner. Les gens sont dans un désert spirituel. Le cœur, il est tout sec, il est tout dur, il est... Et ils ont tellement besoin de joie, de paix, d'amour, de vie. Et Jésus, il allait rempli de tout ça. C'est Christ dont les gens... Ils n'ont pas besoin de la religion chrétienne, ils ont besoin de Jésus-Christ, lui, personnellement. La personne du Seigneur. Vous et moi, nous venons dans une petite salle de culte ce matin, on est là tous réunis, à preuve. Mais est-ce que nous venons chercher une expérience religieuse, ou la subir peut-être, ou est-ce que nous venons pour rencontrer Jésus-Christ, pour vivre de sa vie? Alors, donc, ce fleuve va purifier tout sur son passage tout en apportant la vie. Et les pécheurs vont pouvoir se purifier dans ce fleuve. Et donc, notre vie doit être une source de purification pour les gens qui nous entourent. La puissance régénératrice de Christ. Alors, il dit, c'est abondant aussi, cette offre abondante des fleuves. Il n'a pas dit un fleuve, il a dit des fleuves. Difficile de faire plus dans l'abondance que des fleuves. Vous avez la Garonne qui prend sa source dans les Pyrénées espagnoles, qui va jusqu'à Bordeaux, un fleuve. Et tout le monde connaît, il y a la Haute-Garonne, il y a le Lot-et-Garonne, il y a le Tarn-et-Garonne. Hein. On a nommé plusieurs départements, mais après sur ce fleuve, vous avez la Loire, vous avez la Seine, vous avez le Rhône. Bon, c'est fleuve de France. Mais vous imaginez une personne dont des fleuves sortent de son sein, chacun aussi rempli que les autres. Ça part dans toutes les directions, donnant la vie. Et puis il dit, sortiront de son sein, c'est profond. Sortiront de son sein, c'est son cœur, c'est le cœur. Ces fleuves d'eau vive sortiront du centre de nos affections, de nos émotions, de nos décisions. Le Seigneur les garde ton cœur plus que toute autre chose, car lui vient des sources de la vie. un cœur rempli de Dieu. Un cœur rempli de Dieu donne une bouche remplie de bonnes choses, vous n'êtes pas d'accord? Donne un comportement qui est pur, qui est réel, qui est magnifique. Après, terminons avec le message de son offre. Le message de cette offre, il dit, celui qui a soif, le salut c'est pour les gens qui ont soif. Soif de quoi? De quoi les gens ont-ils soif? Soif d'une conscience pure. De dire, où ça m'accable mon passé, tout ce que j'ai fait, les bêtises que j'ai faites, je ne pourrai jamais les défaire, ça me pèse, ça me travaille, je me lève le matin et je pense à ça et c'est horrible et je ne vois pas comment je peux avoir la conscience. Vous savez, dans beaucoup d'asiles, il y a des gens qui ont une conscience chargée. C'est pas un problème psychologique, c'est un problème spirituel qui est devenu psychologique, qui est devenu comportemental, mais c'est un problème spirituel. Ils ont une conscience chargée et leur conscience les travaille. Soit une conscience pure, soit une satisfaction profonde. Les gens, on a tout pour vivre et on est satisfait de rien. On pense qu'il faut encore autre chose. On n'est jamais satisfait d'être profondément satisfait, soit d'un pardon de Dieu, soit d'une direction dans sa vie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement sans direction. On les rencontre, j'ai fait un an de biologie, j'ai fait un an de médecine, j'ai fait un an de dentiste, j'ai fait un an de, ben je ne sais pas, j'ai travaillé à McDo, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, je vais être esthéticienne, non, mais je vais être enseignant, je ne sais pas, rien ne me dit, je ne sais pas où je vais. Ils ont passé des années sans aucune direction, soit de direction, soit en contact avec Dieu, soit de la délivrance du péché. J'ai ce péché qui me colle à la peau, qui comme un boulet, je n'arrive pas à m'en défaire. Soit une raison de vivre, une raison de vivre. Les jeunes, pourquoi se suicident-ils? Ils n'ont aucune raison de vivre. Vivre comme je vis, en vieillissant avec la maladie en plus, non merci, je préfère me supprimer maintenant. Quand on est là, on ne sait pas pourquoi on est là. C'est vrai, on dit, à quoi ça sert de vivre? Soit d'un nouveau commencement. Si je pouvais tout recommencer, combien ce serait merveilleux. Jésus dit, celui qui a soif, soif de toutes ces choses. Et Christ les donne toutes. Hein. Toutes ces choses, il les donne. Et puis il dit, soif de service, c'est-à-dire des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous dites, si les fleuves d'eau vive coulent dans mon sein, ça me rendra riche. Mais il dit non, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Alors si ça coule de mon sein, c'est pour d'autres. Oui, c'est pour d'autres. Alors vous voulez dire que Jésus donne ses fleuves d'eau vive pour le service? Oui, pour le service. Alors nous en profitons bien sûr, mais ce sont des autres qui en profitent. Dieu nous donne cette richesse pour la partager avec d'autres. Et donc les gens qui, nous qui sommes sauvés, même nous qui avons reçu Christ de notre sauveur, on peut se dessécher. On peut avoir la fontaine qui est bouchée. Et on perd notre premier amour. Il a dit aux Éphésiens, que je vous reproche que vous avez perdu votre premier amour. Amour enthousiasmant que vous aviez au départ. On peut perdre notre amour pour nos proches. Ne pas vraiment aimer les gens, même les gens de notre famille. Être complètement consumé par nous-mêmes et ne pas penser aux autres. On peut perdre le contact avec Dieu. On est sauvé, mais on n'est plus vraiment en contact. On ne lui parle plus. Il ne nous parle plus. Il ne nous console plus. On peut perdre la liberté sur le péché. On retombe dans les mêmes travers qu'avant. On peut perdre la joie de Christ. On peut perdre la reconnaissance. On est reconnaissant pour rien. On râle, on se plaint, mais on dit jamais merci. C'est jamais assez bien. On peut perdre le désir de servir le Seigneur. On peut perdre la confiance en Dieu. Et la soif se développe. Le psalmiste a dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme la biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Et quelquefois, nous les enfants de Dieu, nous perdons toutes ces choses-là. Et on ne ressemble rien en rien à ce que Christ a voulu faire pour nous. On n'a plus ces fleuves d'olive, tout est sec. Alors il dit, c'est un appel que je vous fais, c'est un appel. Venez. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Vous savez, il n'y a rien de plus naturel que d'aller boire. Vous êtes dans un, Il n'y a pas beaucoup de bâtiments publics qui ont des fontaines. En France, aux États-Unis, tous les bâtiments publics ont des fontaines. Vous poussez un bouton, vous approchez, il y a un petit faisceau, et vous pouvez boire. C'est vraiment une belle eau, et puis ça sort comme ça, et vous buvez autant que vous voulez. Et alors on voit des gens qui viennent boire, qui vont un peu plus loin, et qui boivent encore, un peu plus loin, ils boivent encore, et ils ont soif, ils ont besoin de boire, et c'est bien. Mais rien de plus naturel que de venir prendre un verre d'eau et boire. Et on dit ça me fait du bien, surtout quand il fait chaud. Pas besoin que ce soit du coca, de l'eau, ça me va bien, c'est frais, c'est bon, ça m'altère vraiment, ça me désaltère plutôt, c'est libre, c'est naturel, c'est indispensable. Il dit, venez et buvez. Et il dit, celui qui croit en moi, alors regardez bien, qui vient à moi et qui boive. Ça veut dire quoi, venir et boire chez Jésus-Christ? Tu ne vois pas de fontaine, même pas un verre d'eau, même pas un timbal. Ça veut dire quoi, venir et boire? Il dit, ça veut dire croire. Croire. C'est pas, oui, je crois, oui. Oui, oui, oui. Ça va, oui. Moi, je crois. C'est pas ça, venir et boire. C'est, j'ai besoin du Seigneur. Seigneur, je viens, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, je me sens misérable, je veux te donner ma vie, je veux que tu me remplisses, je veux que tu me vives en moi, je veux confesser mes péchés, je veux te laisser vivre en moi, je veux te faire confiance. Ça c'est comme le gars qui vient, oh, j'ai soif, vous n'avez pas d'eau ici, alors on l'entend, glou 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 glou. Ah, c'était bien. Vous en avez d'autres? Glou, 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 glou. Vous en avez d'autres? Oh, oui, oui, vous avez soif. Oh oui, là, je meurs de soif. Et on voit que le plaisir qu'il a. Puis après, il boit plus lentement. Et puis il dit, ah, ça va mieux. Hein? Mais Dieu, il aime bien quand on vient comme ça. Seigneur, j'ai besoin. Je vais lire la parole. Oh, ça m'a fait du bien. Encore un autre chapitre. Encore un autre verset. Maintenant, je vais prier. Et oui, je pense à ça. Et ceci, et ceci, et ceci. Et au bout d'un petit moment, on dit, ça va mieux. Je me sens plus propre. Je me sens plus près de Dieu. Mes péchés, je les ai confessés. Je veux m'en être débarrassé. Je me sens plus libre. Je me sens plus joyeux. Je me sens plus près de Dieu. Il ne tient qu'à nous. Il dit, si vous venez à moi, et si vous buvez, si vous placez votre confiance en moi, si vous me recherchez, si vous me recherchez, je vous garantis que je ferai couler ma vie à flot à travers vous. Vous en serez les premiers bénéficiaires, mais les gens autour de vous en bénéficieront aussi, si vous croyez en moi. C'est pas simplement croire, oui, je crois ça, c'est dépendre du Seigneur. C'est rechercher sa présence. C'est dire, je ne veux pas vivre. Je ne veux même pas continuer à vivre si je ne peux pas vivre auprès du Seigneur. Si je ne peux pas vivre dans l'obéissance et dans la bénédiction, à quoi ça me sert de vivre? Mes amis, quand nous en sommes là, on est prêt à venir boire. Et quand on viendra boire, il a dit, je vous le promets, non seulement vous serez abreuvé, mais vous deviendrez vous-même par moi une source de bénédiction pour les autres. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te demander vraiment de toucher nos cœurs par cette offre de Jésus-Christ. C'est une des plus belles offres que Jésus ait jamais faite devant cette immense foule, le 8e jour de la fête des tabernacles. Il était debout, Seigneur, debout, les bras tendus vers ces gens, leur offrant la vie. Et nous savons, Seigneur, que quelques jours plus tard, Jésus, 6 mois plus tard à peu près, Jésus mourait sur une croix. Mais il leur a dit, ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, pleurez sur vous-même. Il a dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et c'est vrai. Ces gens ne comprenaient pas ce qu'ils avaient fait. Mais Seigneur, ton offre reste valable. Des millions de gens l'ont accepté, sont venus, et leur vie a été transformée. Permets qu'il en soit de même pour chacun ici. Permets-nous cette semaine, en rentrant chez nous, si on avait négligé un peu de renouer avec cette parole, de renouer avec une prière pleine de foi et pleine de vérité. Permets-nous de venir boire à l'entrée. Seigneur, pardonne-nous notre sécheresse, notre cœur endurci et incrédule. Oui, permets-nous d'entrer dans tes œuvres et de vivre notre vie pour toi. Conduis-nous dans la sainteté et dans l'obéissance. Et Seigneur, pour celui ou celle qui ne serait pas encore sauvé, nous te prions qu'il se tourne vers toi et que cette personne dise, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi de mon péché. Je ne compte pas sur une église, je ne compte pas sur un homme ou une femme. Je compte sur toi, Seigneur, Fils de Dieu, pour me sauver. Je compte sur ton sang pour me purifier, me laver et faire de moi une nouvelle création. Nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le 257, si vous le voulez bien, sur les heures de la foi, terminons notre culte. 257. Non, c'est pas celui que je voulais chanter. C'est le... J'aimerais te voir, mon frère. J'ai trouvé la paix profonde. Mélange de chiffres. J'ai trouvé la paix profonde. Voilà, c'est le 212. On le chante beaucoup pour les baptêmes, puisque c'est venir à ces vives eaux. Mais en fait, c'est pas vraiment pour le baptême, c'est par rapport à cette offre du Seigneur. Le bon Dieu pour chanter. Dimanche prochain.